Charles de Valois détourna la tête, il désapprouvait cette épreuve de force. « Mon annulation en sera-t-elle hâtée ?» demanda Louis de Navarre. « Taisez-vous, Louis, dit le roi. C'est aussi à cela que nous travaillons. » « Oui, sire, dit Nogaret, sans même avoir conscience de parler. » Sa voix était rauque et basse. Il éprouvait un grand trouble dans l'esprit. Et les choses se déformèrent devant ses yeux. Les voûtes de la salle lui parurent devenir hautes comme celles de la Sainte-Chapelle. Puis, soudain, elles se rapprochèrent jusqu'à devenir aussi basses que celles des caveaux où il avait coutume d'interroger les prisonniers. « Qu'advient-il ? Demanda-t-il en essayant de desserrer son surcot. Il s'était brusquement ramassé sur lui-même, les genoux contre le ventre, la tête baissée, les mains crispées sur la poitrine. Le roi se leva, imité de tous les assistants. Nogaret poussa un cri étouffé et s'écroula en vomissant. Ce fut Hugues de Bouville, le grand chambellan, qui le ramena à son hôtel, où il fut aussitôt visité par les médecins du roi. Ceux-ci consultèrent longuement. Rien ne fut révélé de leur rapport au souverain. Mais bientôt, à la cour et dans toute la ville, on parla d'une maladie inconnue. Le poison, on affirmait avoir essayé des plus puissants antidotes. Les affaires du royaume ce jour-là restèrent comme suspendues. Lorsque la comtesse Mao apprit la nouvelle, elle dit seulement « Bon, il paie !» et elle se mit à table. Mais elle promit à Béatrice une robe complète, c'est-à-dire les 6 pièces, chemise, robe de dessous, robe de dessus, surcot, manteau échappe, le tout de la plus fine étoffe, avec en plus une belle bourse pendue à la ceinture si le garde des Sceaux trépassait. Nogaret effectivement payait. Depuis plusieurs heures, il ne reconnaissait plus personne. Il était sur son lit, le corps secoué de spasmes, et il crachait du sang. Il n'avait même plus la force de se pencher au-dessus d'un bassin. Le sang coulait de sa bouche sur un gros drap plié qu'un valet changeait de temps en temps. La chambre était pleine. Amis et serviteurs se relayaient auprès du malade. Dans un coin, petit groupe sournois et chuchotant, quelques parents pensaient à la curée en évaluant le mobilier. Nogaret ne les distinguait que comme de vagues spectres qui s'agitaient très loin, sans raison et sans but. D'autres présences, visibles de lui seul, étaient en train de l'assaillir. Au curé de la paroisse qui vint l'administrer, il ne confessa que des râles ou des paroles inintelligibles. « Arrière ! Arrière ! » hurla-t-il d'une voix épouvantée quand on l'oignit des saintes huiles. Les médecins se précipitèrent. Nogaret hagard se tordait sur sa couche, les yeux révulsés, repoussant des ombres. Il était entré dans les affres. Sa mémoire, qui n'aurait plus à lui faire de service, se vidait d'un coup comme une bouteille retournée qu'on va jeter et lui présentait toutes les agonies auxquelles il avait assisté, tous les trépas qu'il avait ordonnés. Mort pendant les interrogatoires, mort dans les prisons, mort dans les flammes, mort sur la roue, mort aux cordes des gibets, se bousculait en lui et venait y mourir une deuxième fois. Les mains à la gorge, il s'efforçait d'écarter les fers rougis dont il avait vu brûler tant de poitrines nues. Ses jambes furent saisies de crampes. On l'entendit crier « Les tenailles, ôtez-les, par pitié !» L'odeur du sang qu'il vomissait lui semblait l'odeur du sang de ses victimes. Il arrivait à Nogaret pour sa dernière heure de se sentir enfin à la place des autres. Et c'était cela son châtiment. « Je n'ai rien fait en mon nom, le roi seul, j'ai servi le roi !» Ce légiste, devant le tribunal de l'agonie, tentait une ultime procédure. Les assistants, avec moins d'émotion que de curiosité et plus de dégoût que de compassion, regardaient s'enfoncer dans l'au-delà l'un des vrais maîtres du royaume. Vers le soir, la chambre se vida. Un barbier et un frère de Saint-Dominique restèrent seuls auprès de Nogaret. Les serviteurs se couchèrent à même le sol, dans l'antichambre, et la tête sous leur manteau. Bouville eut à les enjamber lorsqu'il vint dans la nuit de la part du roi. Il interrogea le barbier.
« Rien n'a pu agir, » dit celui-ci à voix basse. « Il vomit moins, mais ne cesse de délirer. Nous n'avons plus qu'à attendre que Dieu le prenne. »
Râlant faiblement, Nogaret était seul à voir les Templiers morts qui l'attendaient au fond des ténèbres. La croix cousue sur l'épaule, il se tenait le long d'une route nue bordée de précipices et qu'éclairait la lueur des bûchers. Aymon de Barbonne, Jean de Furnes, Pierre Suffet, Brintillac, Ponsard de Gisy. Les morts se servaient de sa voix qu'ils ne connaissaient plus pour se faire reconnaître de lui.
« Oui, sire, je partirai demain. »
Bouville, vieux serviteur de la couronne, eut le cœur serré en percevant ce murmure qu'il se promit de rapporter au roi. Mais soudain, Nogaret se dressa, le menton en avant, le cou tendu, et lui cria effrayant «
Fils de cathare !»
Bouville regarda le Dominicain et tous deux se signèrent. « Fils de Cathare !» répéta Nogaret. Et il retomba sur ses oreillers.